France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troyano, Sacha Mattei et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique, c'est François Saint-Jour. Le 27 février dernier, le chef historique du Parti des travailleurs du Kurdistan, Abdullah Öcalan, appelait à dissoudre le PKK après plus de 40 ans de lutte. Nous consacrons cette nouvelle semaine aux guérillas qui déposent ou ont déposé les armes. Demain, la réintégration des FARC à la société colombienne. Mercredi, les limites des processus de désarmement. Jeudi, les parcours politiques des anciens de l'IRA en Irlande du Nord. Aujourd'hui donc, la dissolution du PKK ou le pari incertain d'Öcalan, dont la déclaration élu ici par une responsable du parti kurde, le DEM.
Organisez votre congrès et prenez la décision de vous intégrer à l'État et à la société. Tous les groupes doivent déposer les armes et le PKK doit se dissoudre. Abdullah Öcalan.
Nous allons désormais poursuivre un dialogue empreint de tolérance et de respect qui remplacera la langue de la haine, du combat et des tensions. Nous conserverons malgré tout notre poigne de fer et nous resterons prêts à agir si la main que nous tendons n'est pas serrée en retour, voire pire, si le PKK la mord.
Si la mesure d'isolement du leader du groupe terroriste PKK est levée, je propose que nous l'invitions à la Grande Assemblée nationale turque pour échanger avec lui. Laissons-lui l'occasion de venir nous dire qu'il a tourné la page du terrorisme et que son organisation est dissoute.
C'est une lettre écrite depuis sa cellule dans la prison d'Imrali, petit éperon rocheux de la mer de Marmara, où il est enfermé depuis 1999, surveillé par un millier de soldats. Dans ce courrier lu le 27 février dernier, Abdullah Öcalan s'adresse aux membres du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, et les appelle à déposer les armes, ces armes que les combattants kurdes s'entraînent à manier tous les jours pour assurer leur résistance face aux assauts de l'armée turque. Malgré 26 années passées derrière les barreaux, dont 4 à l'isolement, Abdullah Öcalan reste le chef des Kurdes de Turquie. En témoigne le cessez-le-feu déclaré à sa suite par le PKK, qui demande désormais qu'Öcalan ait une certaine liberté de mouvement pour que puisse se tenir le congrès actant la dissolution du mouvement. À la fois guérilla et mouvement politique, le PKK a vu comme son idéologie évoluer au gré des lectures d'Öcalan depuis sa prison. Dans sa lettre, il assure que la défense des droits des Kurdes ne peut se faire que par la voie politique, et ce en dépit de la répression que subissent les élus kurdes, démus de leurs fonctions dans plusieurs localités du sud-est de la Turquie, mais aussi ce week-end encore du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, accusé de corruption et de terrorisme pour avoir signé en 2019 un accord électoral avec un parti kurde. Le juge saisi de l'affaire a rejeté d'ailleurs hier ce chef d'inculpation. Renoncer à la lutte armée, est-ce pour le PKK une fin ou un nouveau départ? Que peut-il négocier avec Recep Tayyip Erdogan? Quelles conséquences aussi pour les Kurdes de Syrie, d'Irak ou encore d'Iran? Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Ahmet İnsel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes éditeur et journaliste. Vous avez publié récemment Le national-capitalisme autoritaire, une menace pour la démocratie, coécrit avec Pierre-Yves Vénin et paru aux éditions Bleu Autour. Bonjour Ardimed.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po. Vous avez contribué à l'ouvrage récent, l'ouvrage collectif Le gouvernement des Kurdes, paru chez Kartala et dirigé par Gilles Doronsoro. Alors, vous avez l'un et l'autre, j'imagine, lu cette déclaration d'Öcalan, et je voulais savoir si dans les mots employés pour appeler à déposer les armes, pour rappeler le contexte historique de l'émergence du PKK aussi, et également dans ce qu'il ne dit pas, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé, Ardimed? Que révèle, d'après vous, cette lettre de l'évolution de la doctrine du PKK?
Je pense que les deux éléments saillants de son appel, c'est à la fois la lutte armée, la fin de la lutte armée, et puis aussi la dissolution du PKK. Alors peut-être pour revenir un peu en arrière, la lutte armée ou la fin de la lutte armée Ça commence déjà à partir des années 90 chez Öcalan, même si au sein de l'organisation du PKK. Öcalan, dès les années 90, commence à douter de l'efficacité de la lutte armée. C'est-à-dire à partir de ces années-là, déjà, il cherche à proposer à l'organisation de réfléchir sur d'autres moyens d'action plus efficaces face à l'État turc. Donc je pense que là, il n'y a pas vraiment de nouveauté sur la fin de la lutte armée. Par contre, l'élément le plus important et le plus nouveau, enfin, qui est tout à fait nouveau, c'est plutôt la dissolution du PKK. Ça, c'est important. Ça,
Ce sont deux choses différentes.
Tout à fait, deux choses différentes. Mais là aussi, quand même, il faut le dire, dans son appel, Öcalan dit « je suis pour la dissolution de l'organisation ». Mais aucune organisation ne doit pas être dissue de force. Donc je laisse quand même le soin à l'organisation de décider sur la dissolution. C'est-à-dire, il faut que le parti organise un congrès et donc démocratiquement, les membres et les cadres du parti décident de cette proposition.
Démocratiquement, et c'est un mot qui apparaît plusieurs fois dans ce texte, la démocratie, il n'y a pas de voie en dehors de la démocratie pour construire et mettre en œuvre un système pour les Kurdes, et il ne peut en exister. Le consensus démocratique est la méthode fondamentale. D'après vous, Ahmet İnsel, que veut Öcalan ici démontrer en employant ce mot de démocratie? Est-ce qu'il s'adresse aux Kurdes ou est-ce qu'il s'adresse à Recep Tayyip Erdogan, qui certainement, si il est difficile d'évaluer toutes les discussions qui ont eu lieu entre lui et le pouvoir turc avant cette déclaration, néanmoins, certainement Erdogan n'en demandait pas tant de la part de Öcalan, c'est-à-dire qu'il parle vraiment de démocratiser la Turquie.
Alors, il s'adresse d'abord, évidemment, aux militants kurdes et à la direction du PKK, qui est à Kandil. La lettre, essentiellement, leur est adressée, puisqu'il fait deux demandes.
À Kandil, en Irak.
Kandil, en Irak, oui. Qui demande, ces deux demandes s'adressent directement à la direction du PKK, comme vous venez de souligner, c'est l'autodissolution par un congrès et arrêter la lutte armée, abandonner les armes. Mais en même temps, il faut aussi souligner quelque chose. C'est que quand la lettre de Öcalan a été lue la première fois par la délégation qu'il avait rencontrée, et c'est une lettre manuscrite qu'ils avaient en main, à la fin, une des personnes qui est membre du Parlement, députée du parti DEM, Süreyya, a ajouté une phrase. Il a dit Öcalan, après avoir lu cette lettre, m'a demandé d'ajouter cette phrase qui est, je traduis grossièrement la phrase qui a été prononcée par Süreyya, c'est dans cette perspective. C'est-à-dire dans la perspective que je viens de lire, il faut sûrement, dans la pratique, que pour quitter les armes et l'autodissolution, et réaliser l'autodissolution, il faut que les conditions d'une politique démocratique et les aspects juridiques de cette politique démocratique soient réalisés. Donc, le message à Tayyip Erdogan, à l'État turc, c'est dans cette phrase-là, surtout.
D'accord, donc c'est une sorte d'appel du pied qu'il lance à Recep Tayyip Erdogan, Ahmet İnsel et ensuite Ardimed.
Oui, c'est ça, c'est un appel du pied, c'est-à-dire que ce n'est pas le PKK qui, dans son isolement, va prendre cette décision sans que l'État turc ou le gouvernement de la Turquie prennent des dispositions favorables à la réalisation de cette décision, c'est-à-dire il propose deux choses, les aspects juridiques pour pouvoir le réaliser, il y a plusieurs aspects juridiques sur lesquels nous reviendrons, mais surtout aussi une politique démocratique soit mise en place. Donc du coup, là, le problème, ce n'est pas simplement le PKK qui doit décider, qui doit faire un pas, mais aussi du côté de l'État turc ou du gouvernement de la Turquie. Il faut qu'il fasse un pas, et c'est peut-être là qu'il faudrait un peu plus creuser par la suite.
Ardimed.
Oui, absolument. C'est tout à fait central, cette phrase qui a été oralement ajoutée au manuscrit. Mais d'ailleurs, dans l'appel, Öcalan, il essaie de relier la question kurde, la résolution de la question kurde et la démocratisation du pays. Et donc, c'est tout à fait central, cet animal dans l'appel, parce que en fait, la démocratisation du pays ne s'oppose pas ni chez l'AKP ni le MHP. Et donc, mais c'est très extrêmement clair que sans la démocratisation du pays, la résolution du Kurde reste extrêmement compliquée.
On pourrait faire comme ça pendant une heure l'exégèse de cette lettre, de cette déclaration d'Öcalan pour aller y déceler les références encore peut-être marxistes-léninistes qui est le cadre théorique dans lequel Öcalan a créé le PKK en 1978. On le dit depuis quelques années, influencé par la nouvelle gauche américaine, en particulier Murray Bookchin, le théoricien du municipalisme libertaire et de l'écologie sociale. Est-ce qu'on peut au moins avoir une approche, une analyse de la façon dont le Öcalan aujourd'hui dit que le PKK n'a plus de raison d'être, en quelque sorte, puisqu'il convoque l'histoire. Il rappelle que le PKK a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ensuite pendant la Guerre froide, comme si il justifiait que le PKK n'avait plus de raison d'être aujourd'hui, Ardimed.
Oui, tout à fait. En fait, pour Öcalan, il y a deux choses. D'abord, le PKK est né dans un contexte qui est celui du XXe siècle, marqué par les grandes idéologies, par la lutte armée, par un certain nombre des courants socialistes, etc., etc. Et donc, pour lui, en fait, ce contexte est complètement... on assiste à la fin de ce contexte. Et la lutte armée aujourd'hui n'a plus raison d'être. Donc il faut mettre fin à la lutte armée, puisque donc il y a deux choses en fait. Je pense que Öcalan il pense à deux choses. D'abord parce que sur le plan militaire, le PKK se trouve dans une situation asymétrique face à l'État, parce que l'arrivée de nouvelles technologies militaires change radicalement la donne face à l'État. Donc aujourd'hui c'est difficile de, par exemple, de résister face aux drones. Donc premièrement, il y a un élément qui est central. Un deuxième élément, c'est aussi le contexte à la fois politique et sociale au Kurdistan de la Turquie a changé. Aujourd'hui, il y a un parti légal au Kurdistan, enfin en Turquie, qui représente les Kurdes, qui participe aux élections.
Donc le DEM, le Parti de l'égalité des peuples et de la démocratie.
Qui arrive à franchir le seuil de 10%. Il a une représentation à l'Assemblée nationale. Et donc, le fait kurde est plus ou moins reconnu, qui n'est pas tout à fait le contexte du XXe siècle, dans lequel le fait kurde n'était pas du tout reconnu. Les Kurdes, et donc, il y a un changement, certes, relatif. Et donc, c'est dans ce contexte-là, pour Öcalan, il y a peut-être il y a une possibilité de réfléchir sur la moyenne d'action, d'autres moyens d'action, d'autres répertoires d'action en Turquie. Et puis, peut-être le parti pourrait défendre la cause et se mobiliser d'une manière légale et démocratiquement en Turquie. Mais tout cela aussi dépend, comme il le dit dans son appel, de l'État et des mesures prises concrètement par l'État.
Et qui, pour l'instant, cet État turc ne semble pas vouloir relâcher la pression sur les Kurdes, même s'ils ont été élus les maires du parti DEM. Trois d'entre eux ont encore été destitués en novembre dernier, car accusés de terrorisme, ce qui est une accusation récurrente depuis quelques années, et ces maires kurdes destitués à tour de bras. Alors, sur la figure d'Öcalan, je voudrais qu'on reste encore un petit peu, parce que c'est très surprenant de voir comment un homme qui est en prison depuis 1998, qui est en dehors du monde et de ses évolutions depuis bientôt 30 ans. D'aucuns rappellent qu'en 98, la chute de l'URSS était encore récente et que c'est dans ce cadre-là marxiste qu'il évolue toujours, lui, et que même s'il... En plus, on ne sait même pas s'il a accès aux journaux. Le PKK, Ahmet İnsel, comment expliquer que des milliers de Kurdes continuent à considérer qu'Öcalan est non seulement leur porte-voix, mais celui qui doit prendre les grandes décisions pour tout le mouvement?
Oui, surtout que je vais répondre à cela, mais surtout dans la lettre, il y a un aspect qui nous interpelle parce que effectivement, toute une revendication du mouvement kurde, Öcalan, il dit, c'est du passé. Et il dit, nous n'avons plus de revendication d'indépendance, pas de revendication d'autonomie, et le plus surprenant, il dit même, pas de revendication culturelle. Donc aujourd'hui, le mouvement kurde qui s'est battu pendant très longtemps, au moins sur la revendication culturelle, la reconnaissance, parce que quand on a une revendication culturelle, on peut le comprendre d'une manière limitée, mais aussi d'une manière large, parce que la reconnaissance de la langue kurde fait partie de revendications culturelles. Et là-dessus, le retrait de Jalan laisse une zone grise, si vous voulez. Malgré cela, aujourd'hui encore, parce que là, il peut y avoir des réactions fortes d'une partie du mouvement kurde en disant « Öcalan nous abandonne dans notre revendication historique ». Malgré cela, il reste une figure tutélaire, une figure de référence dans le mouvement kurde, pas simplement en Turquie, mais aussi en Syrie, pas tellement en Irak, parce qu'en Irak, il y a d'autres organisations, mais surtout en Syrie, en Turquie et en partie en Iran. Alors, ceci s'explique par le fait que dans le Moyen-Orient, il y a toujours cette volonté de se donner un chef. Et Öcalan joue vraiment le caractère du chef, mais en même temps, le chef qui est parfois très violent, parce qu'Öcalan a été, quand il était à la tête du PKK d'une manière active, n'était pas non plus un tendre. Hein. Il y a eu énormément de violences internes dans l'organisation, notamment pour réprimer les dissensions, etc. Mais en même temps, il a joué aussi une carte de libération sociale, notamment sur le mouvement des femmes. Donc du coup, quand on regarde dans le mouvement kurde aujourd'hui, c'est l'adhésion à Öcalan est beaucoup plus forte, beaucoup plus massive, beaucoup plus, je dirais, spontanée du côté des femmes que des hommes. Parce que Öcalan a permis à transformer le PKK, qui était une organisation initialement marxiste-léniniste, mais aussi très machiste de par son histoire, à une organisation qui revendique vraiment l'égalité d'hommes et femmes, a institué des pratiques qui ont après été, par exemple, la coprésidence à tous les niveaux, hommes et femmes, une pratique qui n'existe pas auparavant, et que c'est le PKK qui, dans l'espace politique turc, de Turquie, a introduit, et d'autres partis ont été obligés de le suivre plus ou moins. Alors donc, du coup, il y a une culture moyen-orientale. Ça, il faut le reconnaître, mais du côté des Kurdes, mais du côté des Turcs aussi. Hein, il y a une culture moyen-orientale, on se met derrière un chef, une figure tutélaire, mais en même temps, Öcalan est quelqu'un qui essaye de mobiliser, parfois avec une extravagance de discours, de mobiliser intellectuellement, historiquement, une population disséminée entre quatre États et qui est réprimée essentiellement, maintenant essentiellement en Turquie, en Iran et jusqu'à très récemment en Syrie.
Avec de la part d'Öcalan aussi un certain culte de la personnalité.
Au Moyen-Orient, les prophètes ont toujours guidé les peuples. Ils ont une mission de messager, une mission très difficile car il n'est pas simple de maîtriser ce rôle de prophète. Mais si vous voulez mobiliser le peuple, il faut recourir aux méthodes de ces prophètes. Ça ne veut pas dire que je me considère comme un prophète, mais je m'inspire de leur manière de faire, c'est la clé du succès.
Avant d'être un prophète, Öcalan est d'abord un oncle Apo, le chef Apo, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le Kurdistan de Turquie. Ardimet, vous parlez d'un charisme organisationnel d'Öcalan qui explique la façon qu'il a encore aujourd'hui de présider aux destinées du PKK.
Oui, effectivement. En fait, moi, personnellement, je suis un peu méfiant de la dimension culturelle ou culturaliste qui expliquerait à peu près, qui dirait à peu près ceci, la culture moyen-orientale, les pro pisse à la culte du chef, etc. Je pense que c'est pas tout à fait ça. Ce qui explique l'apparition de choc, enfin le choc charismatique est un peu partout. On le trouve en Europe, en Amérique latine, un peu partout. Alors ce qui concerne le charisme de Öcalan, il y a quelque chose de tout à fait sociologique et très intéressant. Certains collègues comme Gilles de Ronceau, Olivier Grosjean, dans un livre collectif, ils qualifient le charisme de Öcalan d'organisationnel. C'est-à-dire que c'est un charisme qui est fait et forgé, entretenu dans la durée par l'organisation. Autrement dit, en fait, c'est le chef Öcalan lui-même et contribue à la fondation de son parti. Donc c'est la porte-parole, c'est le représentant par ses interventions publiques, par ses actions. Il essaye de faire exister le parti, mais le parti aussi contribue depuis les années 80 à entretenir cette image de chef, à renforcer son image, entretenir son image dans la durée. Par exemple, depuis 1999, Öcalan il est en prison, mais le PKK n'a jamais abandonné son chef. Il a toujours défendu son image, son autorité au sein de l'organisation. Il a même fait de sa libération un élément central, l'une de ses revendications. Et donc, en fait, c'est un chef charismatique, c'est-à-dire que c'est un charisme qui est fait par l'organisation. C'est plutôt la partie qui est à l'origine de ce charisme et qui essaie de le diffuser, le défendre à l'échelle locale, chez les militants, mais aussi à l'échelle, voire nationale, transnationale, etc.
C'est pour ça que ceux qui se montrent plus critiques vis-à-vis d'Öcalan disent qu'il a en quelque sorte essayé de monopoliser la lutte kurde, voire cannibaliser, selon certains. Pendant ce temps-là, la société kurde évoluait depuis que lui est en prison depuis la fin des années 90. Elle est aujourd'hui cette société kurde beaucoup plus urbaine. Une véritable classe moyenne a émergé. Il y a aussi une classe intellectuelle kurde qui le soutient d'ailleurs pour certains. Selahattin Demirtas, par exemple, le coprésident de HDP, l'ancien nom du parti kurde, a exprimé depuis sa prison lui aussi son soutien aux efforts en cours. Comment Ahmet İnsel, dans cette série consacrée aux guérillas et qui commence par le PKK, parce que l'actualité nous dicte cette entrée en matière, comment définir le PKK appelé à se dissoudre? Est-ce que le terme de guérilla permet aussi de lire la dimension politique du mouvement?
Oui, bien sûr, il y a une dimension fondamentalement politique du mouvement, ça c'est indiscutable. Le Parti des travailleurs de Kurdistan, sous son nom ouvert, si vous voulez, le PKK, est une organisation qui a une dimension politique très nette, hein, qui apparaît, qui est créée en 1978 dans la mouvance des organisations marxistes-léninistes de l'époque et prend une tournure d'organisation de libération nationale, notamment donc dans le Kurdistan de turc, et puis dans la région par la suite. Et c'est une organisation qui utilise la lutte armée, mais pas que. Il y a aussi une dimension politique, un encadrement politique qui essaie d'encadrer la population, la jeunesse kurde en Turquie ou dans les endroits où ils se trouvent, en Syrie particulièrement. Quand Öcalan est arrivé à partir des années 80, et c'est une organisation qui utilise évidemment la guérilla, se transforme à certains moments des actions qu'on peut qualifier de terroristes aussi. Donc du coup, il y a toutes les dimensions d'une organisation de résistance guérilla qui figure dans le répertoire d'action du PKK avec un discours politique permanent. Là-dessus, si vous voulez, le cap politique chez Öcalan, mais aussi chez les dirigeants actuels du PKK, le cap politique est toujours très très présent. D'ailleurs, quand vous regardez les discours, les entretiens des dirigeants du PKK, les 5-6 dirigeants en vue du PKK, ce sont des longs interviews, des longs discours avec toujours un recul historique en détail, etc., etc. Un peu comme Öcalan fait dans sa lettre. Hein, dans la lettre d'Öcalan, il y a le trois quarts, c'est une rétrospective politico-historique. Et après, on arrive à l'essentiel. Donc, du coup, il y a toujours la domination de cette vision du monde politique. Oui.
Parler du PKK, c'est parler à la fois d'une organisation politique et armée, mais c'est parler aussi de toutes les organisations qui gravitent autour de lui, qui s'approprient ses symboles, ses mythes, ses discours, sans en faire partie de façon organique. Je reprends les mots du chercheur Hamid Bozarslan, qui dit que le PKK, c'est un environnement, car plusieurs centaines de milliers de personnes s'en réclament. Des sympathisants qui, pour certains, ont salué la déclaration de Öcalan et pour d'autres, ne l'ont pas comprise.
Le message d'Abdullah Öcalan est un message de paix, un message de fraternité, un message d'humanité, un message de droit et de loi, un message de justice et d'égalité.
Il n'y avait rien dans son message, rien de spécial, pas de mention d'une fédération kurde, rien non plus sur les droits culturels pour les Kurdes. Cela crée une fracture au sein de notre communauté.
Des Kurdes de Diyarbakir rencontrés par une équipe de France 24 en février dernier, que peuvent obtenir et le PKK en particulier et les Kurdes en général en échange de cette déclaration? Hardimed, si l'on part du principe que les 6 mois, 8 mois, peut-être un an de discussions préalables avant cette déclaration ont été faites aussi avec des représentants du gouvernement turc de l'AKP et de Recep Tayyip Erdogan.
Oui, effectivement, je pense que cet appel fait par Öcalan est le produit d'une longue négociation qui commence a priori depuis déjà un an. Ce qui est important, c'est que dans les faits, rien n'est fait. Öcalan, lui, il dit clairement, moi j'ai fait ce qui m'appartient, j'ai fait le pas, j'ai tendu la main, donc je suis favorable à une arrestation à la fin de la lutte armée, je suis même favorable à une dissolution de l'organisation, mais maintenant c'est à l'État, comme la fameuse phrase qui a été oralement ajoutée à son appel, qui dit maintenant c'est à l'État de prendre des mesures à la fois juridiques, institutionnelles, concrètes, pour commencer un processus de paix qui permettrait de résoudre la question kurde en Turquie. Alors, comme je l'ai dit pour l'instant, en fait, l'ensemble d'observateurs sont à peu près s'accordent pour dire que rien de concret n'est fait, premièrement. Et deuxièmement, c'est que les militants, la base sociale, si vous voulez, de l'organisation du PKK n'est pas tout à fait optimiste face à cette situation, puisque les citoyens et la base sociale qui vit sur le terrain, qui continue de vivre en fait de la violence étatique, la répression, l'arrestation des journalistes, l'arrestation des intellectuels, ils ont vraiment du mal à croire à ce qui se passe aujourd'hui en Turquie. Ils restent très très méfiants. Il n'y a pas vraiment de conscience dans l'État et ses institutions. Et donc, voilà, c'est toute la question, c'est de savoir est-ce que l'État a vraiment une volonté de mettre en place, de prendre des mesures concrètes pour lancer ce processus de paix. A priori, non, parce que rien n'est fait. Et donc, il y a aussi, si les gens ils se sont méfiants, c'est parce qu'ils ont aussi l'expérience des années 2013. En 2013, il y a eu un processus de paix qui a été lancé, mais qui n'aboutit absolument à rien. Et donc, déjà, il y a cette expérience qui est là, qui n'a pas oublié, et donc c'est l'argent pour qui explique aussi la méfiance et même la défiance des gens, des Kurdes et la base sociale du parti kurde vis-à-vis de l'État turc.
Et d'ailleurs, c'est à l'issue de ces négociations qui ont échoué qu'en 2015-2016, de très nombreux combattants ou dirigeants du PKK sont partis se réfugier en Irak ou pour se battre en Irak. Il faut préciser qu'Öcalan est né dans un village kurde de Turquie, Ömerli, d'un père kurde et d'une mère turque, et qu'il s'est beaucoup pendant son enfance, enfin plutôt sa jeunesse, cherché. Il a fréquenté des intellectuels islamo-nationalistes. Il connaît bien la pensée de Recep Tayyip Erdogan et de l'AKP, dit-on. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à Metinsel des discussions à venir qui vont s'ouvrir avec Recep Tayyip Erdogan? Est-ce que celui-ci, le président turc, peut accepter, par exemple, que les combattants du PKK se reconvertissent en représentant politique d'un parti qui serait officiellement établi, un scénario à l'irlandaise en quelque sorte?
Je suis un peu pessimiste sur cette issue-là, parce que avant même d'arriver à ce point-là, les dirigeants du PKK, ils ont, Cemil Bayık et Duran Kalkan, ils ont ouvertement dit une chose. Ils ont dit, nous sommes une organisation nous savons la lutte armée, mais nous, sur le terrain politique pur d'autodissolution, c'est notre chef fondateur qui doit diriger le processus. Si vous voulez que nous fassions un congrès pour nous autodissoudre, dans ce cas-là, c'est Öcalan qui doit diriger ce congrès. Alors cela signifie non pas qu'il demande que Öcalan soit libéré de Imvalı et qu'il aille à Kandil organiser le congrès, mais que Öcalan soit libre
de ces mouvements,
relativement de communiquer avec ses collègues et organiser, participer à l'organisation de ce congrès. Il n'y a rien ne se fait dans ce sens-là au jour d'aujourd'hui. Et donc, du coup, même, je dirais, celui qui a lancé cette opération, le chef du parti d'extrême droite nationaliste, Devlet Bahçeli, il y a quelques jours, quasiment en... on dirait que c'était une provocation pour détruire toute la confiance qu'on pouvait avoir sur ce processus. Il a proposé que le congrès du PKK soit tenu le 4 mai dans une ville d'Anatolie, de l'est de l'Anatolie. Le 4 mai, c'est la journée des Turcs, la journée de la Turcité. Oui. Et l'endroit en question, c'est un endroit historique qu'on considère comme le symbole des Turcs. Autrement dit, ils demandaient au PKK de devenir turc quasiment. Mmh. Donc, on ne peut pas avancer comme ça.
Donc, il n'a pas perdu, Ahmet İnsel, sa boussole politique. Devlet Bahçeli, le chef du parti d'extrême droite MHP, Ali Recep Tayyip Erdogan. D'ailleurs, avec cette déclaration que vous venez de nous relayer, cette proposition de faire quelque chose ensemble le jour des Turcs pour les Kurdes. Donc, c'est évidemment inacceptable aujourd'hui pour les Kurdes. C'est pourtant lui qui avait surpris tout le monde, y compris les membres de son parti, en allant ostensiblement serrer les mains des députés kurdes lors de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire en octobre et en appelant Öcalan à lui-même faire cette déclaration pour déposer les armes en promettant presque une libération en échange de cette déclaration-là. Devlet Bahçeli, comment expliquer Hardimed, cette déclaration qu'il avait faite, ce leader du parti d'extrême droite turc qui, en plein contexte régional qu'il faut rappeler, où c'était un tout petit peu avant la chute de Bachar al-Assad, mais en tout cas, lui, est-ce qu'on peut analyser cette déclaration de Öcalan et tout ce qui s'est passé avant politiquement sans rappeler que Bachar al-Assad dans la Syrie voisine est tombé en décembre?
Oui, c'est vrai que le fait que Bahçeli, qui est quand même le président, qui est quand même la figure de courant de droite nationaliste en Turquie, et donc c'est lui qui aujourd'hui essaye de défendre un processus de paix, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et même très contradictoire. Et donc on essaie de comprendre quels sont les ressorts en fait de cet engagement. À mon avis, il y a peut-être 12 éléments contextuels, à la fois un contexte régional, mais aussi un contexte plutôt national, qui est propre au cadre national de la Turquie. Alors d'abord, je pense que la chute du régime Assad et c'est l'un des éléments qui explique ce processus de paix, parce que la Turquie en fait essaye de contrôler la gestion de la question kurde en Syrie avec le nouveau dirigeant de Damas. Mais comme il y a les autres États, notamment la France, l'Allemagne, les États-Unis, mais aussi l'État Israël, qui essayent d'intervenir pour défendre les causes kurdes et puis s'associer à ce processus, de paix entre les Kurdes et les nouveaux dirigeants en Syrie. Et donc là, en fait, au niveau, à côté de l'État turc et des dirigeants turcs, il y a une sorte d'inquiétude. Ils essayent d'éviter, en fait, que les autres États mettent la main sur ce processus de négociation entre les Kurdes et la dirigeante de Damas. On a l'impression que, si vous voulez, il y a une sorte de lutte pour le monopole de la gestion kurde en Syrie entre la Turquie et puis les autres États.
Les autres États, c'est quoi? Les États-Unis,
Israël, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Donc, je pense qu'il y a un élément quand même supranational, pour la Turquie, disons régional, qui explique à peu près ce processus de paix qui est lancé par Erdogan et Bahçeli. Alors, un deuxième élément qui commence en fait à se donner à voir, c'est que moi, j'ai l'impression que si ce processus de paix il est aussi initié par ces deux partis, par ces deux hommes, Erdogan et Bahçeli, c'est dans l'objectif de d'écarter les Kurdes du reste de l'opposition en Turquie, parce qu'en fait, les deux hommes cherche à affaiblir le parti CHP et notamment CHP, le parti républicain gauche, et la figure emblématique de ce parti qui est notamment la maire
d'Istanbul qui a été arrêtée ce week-end.
Exactement. Et donc on a l'impression qu'en fait il y a aussi un enjeu national qui consiste à écarter les Kurdes de cette dynamique oppositionnelle. Voilà. Je pense que c'est les deux éléments qui expliquent en quelque sorte ce processus, mais je pense qu'il y en a d'autres.
Donc un élément national et un élément de contexte régional. Donc la nouvelle donne en Syrie, le dialogue qui s'est instauré après la chute de Bachar al-Assad entre le président provisoire de Syrie, Ahmed al-Shara, et le dirigeant kurde Mazloum Abdi, le chef des forces démocratiques syriennes ou FDS. Ils ont d'ailleurs trouvé un accord le 10 mars. Ces forces kurdes qui contrôlent le nord-est du pays et qui représentent 60 à 100 000 hommes acceptent d'être intégrés au nouvel État syrien, tant sur le plan civil que militaire. L'agenda, comme on dit, du dirigeant kurde Mazloum Abdi est donc syrien, national, et il dit ne pas se sentir concerné par la déclaration d'Öcalan.
La question du dépôt des armes est liée au PKK, elle n'a rien à voir avec nous. Mais si cette opération réussit, nous en bénéficierons également. Si le PKK se dissout et dépose des armes, il n'y aura plus de danger pour la Turquie, et elle n'aura donc plus d'excuses pour attaquer nos régions.
Il se trouve que dans sa déclaration, Öcalan ne fait aucune allusion aux Kurdes de Syrie, ni aux autres d'ailleurs. Pourquoi, Ahmet Itsel, comment expliquer que cette lettre soit aussi décorrélée du contexte du moment ?
La lettre était directement s'adressée au PKK et officiellement, PKK ne revendique pas que le YPG, l'organisation politique kurde dominante dans le nord-est de Syrie et les forces démocratiques syriennes, soit une émanation directe. Donc du coup, ça c'est une accusation que fait l'État turc, mais que le PKK, ni Öcalan, ni les autres ne revendiquent pas une affiliation directe. Öcalan simplement avait dit que Mazloum Abdi, quand il était en Syrie, Mazloum Abdi était un peu son fils spirituel, parce qu'ils étaient ensemble dans l'organisation locale, mais pas plus. Mais nous savons qu'il a aussi fait adresser une lettre aux forces démocratiques syriennes, donc à Mazloum Abdi.
Une lettre parallèle, alors, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Il a envoyé aussi une lettre, il a fait lire une lettre aussi pour les Yézidis aussi, récemment, en leur promettant vraiment de reconnaissance, d'une libération. Vous savez, les Yézidis sont réprimés par la majorité musulmane sunnite, kurde ou turque, arabe, peu importe. Donc, du coup, il essaye de créer une dynamique de coalition des minorités pour pouvoir créer un espace de multiculturel, reconnaissant multiculturalité et d'égalité. Mais par contre, sur le facteur interne, tout à l'heure ça a été souligné, je pense que ce qui prime dans tous ces facteurs internes, externes pour Erdogan, c'est d'abord, est-ce que ce processus va me rapporter des voix ou non. D'ailleurs... Et au jour d'aujourd'hui, pour Erdogan, il n'est pas sûr que la résolution du problème, il appelle ça le problème, la résolution du problème avec le PKK lui rapporte plus de voix que ce que va lui coûter dans son électorat.
Auprès de qui alors ? Auprès de qui est-ce qu'il peut remporter des voix à Ahmet Itsel ou Ardimed en décidant comme ça de faire plus ou moins semblant de discuter avec Öcalan ?
Je pense que M. Itsel, il a tout à fait raison de le rappeler. Je pense que dans ce processus de paix, Erdogan, ce qui intéresse Erdogan, c'est l'enjeu électoral. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il essaye de mettre en avant Bahçeli, comme la figure nationaliste droite en Turquie. Il essaye de que lui, en fait, en quelque sorte, supervise ce processus de paix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'un côté, Erdogan, il essaye de toucher l'électorat kurde en leur disant qu'il est prêt pour une négociation avec le PKK. De l'autre côté, pour ne pas perdre aussi les voix qui viennent de l'extrême droite et de droite, il met en avant cette figure du nationaliste de droite turque. Donc je pense que oui, l'enjeu électoral, il est tout à fait important dans sa histoire, dans son contexte, puisque Erdogan, il convoite clairement un troisième mandat, je crois en 2028, et pour cela, peut-être il sera amené à réviser la constitution, et donc il a besoin en fait d'un appui qui vienne aussi des députés députés kurdes et de l'électorat kurde.
Mais aussi de l'électorat kurde qui ne vote pas comme un seul homme pour les partis de gauche laïque kurde. D'ailleurs, l'AKP de Recep Tayyip Erdogan est le deuxième parti le mieux implanté chez les Kurdes, ainsi qu'un autre parti allié d'Erdogan, UDAPAR, parti islamiste kurde. Ce sera notre focus après ce groupe Adamlar. Adamlar et sa chanson Hayret, c'est une expression qui s'utilise pour exprimer une situation de grande surprise, paraît-il. Alors en français, on dit « ah » et en turc, on dit « hayret ». Et il se trouve que beaucoup de décisions ou de déclarations ont suscité la surprise en Turquie juste avant ou après qu'Öcalan, le chef du PKK, n'appelle à déposer les armes et à dissoudre le PKK. Les déclarations, par exemple, du chef du parti d'extrême droite turc MHP, sa main tendue vers Öcalan, alors qu'il est depuis toujours à la fois anti-PKK mais aussi anti-kurde. Il doit pourtant composer au sein de la coalition gouvernementale avec un autre parti kurde qui n'a rien à voir avec les partis kurdes de gauche. Il s'agit de Hudapar, littéralement parti de Dieu en kurde.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Nous aussi, nous avons été affaiblis, massacrés, emprisonnés. Mais l'espoir nous anime à nouveau, nous les plus faibles. Oh Kurdistan, tu renoues avec ton maître. Élève la voix, élève le doigt.
Zekeriya Yapıcıoğlu, le chef du parti kurde UDAPAR, qui fait partie de la coalition gouvernementale aux côtés de l'AKP de Recep Tayyip Erdogan. Bonjour Ariane Bonzon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendante et grande reporter, autrice de Turquie, l'heure de vérité, parue aux éditions Empreinte il y a quelques années. D'abord, ce parti UDAPAR, est-ce qu'il se revendique d'abord comme un parti kurde ou d'abord comme un parti religieux ?
Les deux, mais essentiellement religieux. Lui, ce qu'il veut, c'est établir un État turc avec, qui serait basé sur la charia. Hein. Il ne cherche pas une autonomie kurde comme pourraient le vouloir les autres mouvances de gauche et laïque. Lui, ce qui l'intéresse, c'est un État et considère la loi religieuse, la charia, comme supérieure à la loi positive.
C'est un parti qui a été officiellement créé en 2012, mais jusqu'où vont ses racines ?
Alors justement, on est dans une série sur les guérillas. Le prédécesseur, si vous voulez, d'UDAPAR, c'est un mouvement de contre-guérilla qui a été utilisé plus ou moins, alors là ça se discute, mais par l'armée turque contre le PKK. C'est-à-dire que dans les années 80-84, quand le PKK passe à la lutte armée, le Hezbollah, alors ça n'a rien à, il s'appelle le Hezbollah, mais c'est un parti de Dieu, mais qui n'est pas, ça n'a rien à voir avec le Hezbollah libanais qui lui est chiite. Le Hezbollah, c'est un parti, enfin c'est un mouvement des milices surtout qui sont sunnites et kurdes et qui sont également aussi dans le sud-est de la Turquie. Et leur objectif, c'est justement de remplacer l'État turc laïque par un État basé sur la charia, par la violence armée s'il le faut, il coopère avec l'Iran. Et donc, si vous voulez, d'une certaine manière, l'État turc est impie pour eux. Ils sont vraiment contre l'État turc, mais ils sont avant tout contre le PKK qui, lui, comme vous l'avez dit très bien, veut un État indépendant kurde et d'inspiration communiste à l'époque. Donc, ils vont être instrumentalisés par le pouvoir et ils vont mener une contre-guérilla vis-à-vis du PKK.
C'est ainsi que, à son arrivée au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan a soutenu le processus de reconversion de Oudapar en mouvement civil et politique. Depuis quand est-ce qu'il se présente aux élections ?
Alors, vous avez tout à fait raison. Effectivement, le parti politique est lancé en début 2012. Mais alors, par exemple, aux dernières élections de 2023, ils ont réussi à avoir 4 députés, mais en fait, ça ne représente pas vraiment leur importance dans le paysage électoral. Ils sont vraiment extrêmement soutenus par Erdogan, qui leur fait des places, en vérité, sur ces listes. Il faut toujours... C'est important de s'intéresser à ça, parce que ça traduit quelque chose de la société kurde, mais c'est un mouvement extrêmement minoritaire. Il faut savoir... D'ailleurs, c'est assez intéressant de savoir que... Oudapar a renoncé, si vous voulez, à la lutte armée, hein, et c'est sur le conseil, sans doute, de Khaled Meshal, qui était le chef du bureau politique du Hamas, qu'ils ont créé ce parti politique en 2012. Parce qu'effectivement, Oudapar est très proche du Hamas. C'est ce mouvement Oudapar qui est derrière le plus grand nombre des grandes manifestations de solidarité avec le Hamas depuis le 7 octobre.
Et d'ailleurs, est-ce que ce discours pro-Hamas a convaincu des électeurs kurdes de se tourner vers Oudapar, alors que peut-être certains d'entre eux jusqu'à présent votaient pour les partis laïcs de gauche, dont DEM, qui est donc le parti lié au PKK ?
Alors, c'était le calcul de Recep Tayyip Erdogan. Et c'est toute la question. Et l'idée, c'était de détourner les voix kurdes parce que l'AKP est un parti très présent dans le Sud-Est, mais il espérait justement qu'un certain nombre de voix kurdes qui échappaient à l'AKP, le parti du développement, enfin, de Erdogan, iraient vers Oudapar. Et en fait, c'est un échec. C'est un échec, c'est-à-dire que d'abord, l'écho est effectivement faible, mais c'est plutôt les électeurs de l'AKP qui se sont tournés vers Oudapar plutôt que les Kurdes. Cela dit, il faut quand même dire que le calcul de Recep Tayyip Erdogan n'était pas complètement infondé, car contrairement aux années 90, dont vous parlez avec la naissance de cette guérilla du PKK, la base kurde est un peu plus éloignée du discours, elle est même beaucoup plus éloignée du discours de la gauche révolutionnaire qu'on a connu dans les années 90. Et la répression étatique turque contre les Kurdes, si vous voulez, à renforcer ce nationalisme kurde. Cela dit, c'est vrai qu'ils ne sont pas allés voter Oudapar. C'est plutôt la mouvance de la KP, islamiste, conservatrice, qui s'est tournée vers Oudapar. Et là, le calcul d'Erdogan a été mauvais parce qu'il a perdu quelques voix au profit d'Oudapar.
Et le parti DEM, alors le parti kurde de gauche laïque plus en lien avec le PKK, lui, quelle position a-t-il prise depuis parce que, à vous entendre, Ariane Bonzon, ça a beaucoup d'importance aujourd'hui, la façon dont ces partis kurdes se sont positionnés par rapport à la guerre à Gaza et par rapport aussi aux attaques du Hamas du 7 octobre, les attaques terroristes. Comment le DEM, les partis kurdes de gauche, se sont-ils positionnés? On rappelle qu'ils ont été très liés dans les années 70-80. Öcalan et les militants du PKK venaient s'entraîner dans la plaine de la Beka au Liban aux côtés des combattants de l'OLP. Il n'y a plus ces liens aujourd'hui avec la cause palestinienne?
Absolument. Alors là, c'était quand même le mouvement nationaliste palestinien.
C'était pas du tout les mêmes, hein, bien sûr.
Cela dit, vous avez tout à fait raison. Et là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait un discours de la gauche révolutionnaire, des mouvements de libération dans les années 90 qui existe beaucoup moins maintenant. Il y a effectivement une espèce de coupure, de césure avec la cause palestinienne. Ce qu'on entend quand on parle avec des activistes ou des militants kurdes de Turquie, ils disent, écoutez, ce qui s'est passé par exemple à Kobané. Vous vous rappelez, Kobané, c'est une ville de Syrie qui a été attaquée par Daesh. Hein, et les Kurdes ont été un peu seuls à se défendre contre Daesh. Et même les Kurdes de Turquie sont venus en soutien aux Kurdes de Syrie qui défendaient cette ville. Eh bien, ils ont dit, personne n'a bougé pour nous. Les Palestiniens n'ont rien fait pour nous. Donc, on joue perso. Et donc, ça, c'est... Il y a une espèce de repli, effectivement, du mouvement kurde. Cela dit, quand ils voient Oudapar brandir la dimension religieuse... Eh bien, alors que c'est le PKK, enfin, alors que la mouvance, vous parlez justement du Parti d'égalité des peuples et de démocratie, cette mouvance est plutôt laïque, plutôt de gauche, elle réintroduit un peu de religion dans ses meetings, dans certains meetings, par exemple, il y a la journée de Mohamed, enfin, elle a repris nous deux petites choses d'Oudapar. Mais enfin, elle reste tout à fait laïque, de gauche, mais elle essaye quand même de prendre un tout petit peu une base conservatrice, de nourrir un peu une base conservatrice qui pourrait être tentée d'aller voter Oudapar.
Donc les succès d'Oudapar, ou en tout cas ces discours qui font mouche, semblent réorienter quelque peu la ligne idéologique de ces partis kurdes de gauche, qui, j'en profite pour rappeler que dans la ville de Diyarbakir, des médias turcs rapportaient l'été dernier des attaques de militants de Oudapar contre des Kurdes dans son plein air, des gens en train de manger dans une chaîne de restauration rapide états-unienne, tout ce qu'ils considèrent comme impie. Et donc c'est ce mouvement-là, ce mouvement Oudapar, c'est ça qu'il représente aujourd'hui, une sorte d'islamisation des Kurdes de Turquie. Je vous remercie beaucoup, Ariane Bonzon, d'avoir été avec nous. Et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, rappelez-le moi parce que je suis en train de complètement...
L'heure de vérité, pardon.
Merci d'avoir été avec nous. Ardimed, est-ce que ce mouvement d'islamisation des Kurdes existe aussi en Irak, que vous connaissez bien?
Au Kurdistan irakien, on a trois partis politiques islamistes, mais je dirais depuis les années 90, ces partis n'ont pas vraiment réussi à élargir leur audience électorale, et leur base, je dirais, sociale reste pratiquement la même. Hein, donc, ça reste, ce sont des partis qui n'ont pas nécessairement une influence majeure sur la dynamique politique dans la région.
Peut-être pour conclure. Ahmet Insel, si vous êtes toujours avec nous, et je le souhaite, conclure sur cette première émission qui parlait vraiment de l'appel d'Öcalan, le leader toujours des Kurdes, à la fois déposer les armes pour le PKK et dissoudre cette formation. Est-ce que, d'après vous, il s'agit d'une fin du PKK ou d'un nouveau départ? Est-ce que les revendications que l'organisation a toujours portées aussi, de libération des prisonniers, de cours en langue kurde, est-ce que tout ça doit être oublié? Est-ce qu'on demande au PKK de l'oublier pour que les discussions se poursuivent avec l'État turc?
L'État turc voudrait aujourd'hui, effectivement, du côté de l'État turc, il voudrait que le PKK disparaît subitement de son propre chef sans rien demander. C'est une illusion, évidemment. Et le problème, c'est que du côté de Öcalan, il y a une vraie ouverture. On peut analyser ça comme un changement épistémologique, un changement de perspective politique en prenant en considération le nouveau monde, etc. Mais le problème, je crois, de plus en plus nous voyons, c'est que l'État de Turquie n'a pas dans son intelligence historique, et ce n'est pas simplement face aux problèmes kurdes, mais par rapport à beaucoup de problèmes par le passé, nous avons constaté la même chose, n'a pas cette habitude, ces réflexes, cette capacité à résoudre pacifiquement, dans une négociation, un problème qu'il considère, lui, comme majeur. Et donc, du coup, je suis un peu pessimiste sur la capacité de réponse que peut donner l'État turc par rapport à cette possibilité d'ouverture, de sortie d'une confrontation qui a coûté la vie de dizaines de milliers de personnes et beaucoup de pertes économiques, sociales, culturelles à la Turquie.
Donc, on estime
peut-être le PKK va demander, va essayer d'évoluer dans cette direction, mais sans une main tendue de l'autre côté, ne serait-ce qu'un doigt tendu de l'autre côté, je ne vois pas comment ils vont pouvoir avancer.
D'autant que pour l'instant, Recep Tayyip Erdogan n'a jamais parlé de résoudre la question kurde, mais de mettre fin au terrorisme, puisqu'il réduit cette question turque depuis longtemps à une question sécuritaire. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Ardimed. Je rappelle le titre de l'ouvrage auquel vous avez contribué, l'ouvrage collectif « Le gouvernement des Kurdes » paru chez Kartala, dirigé par Gilles Doron-Soro. Merci beaucoup Ahmet Insel, éditeur et journaliste. Votre dernier ouvrage que vous avez coécrit avec Pierre-Yves Hénin, c'est paru aux éditions Bleu Autour et ça s'appelle « Le national-capitalisme autoritaire, une menace pour la démocratie ». Merci d'avoir été avec nous, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Revue de presse qui commence en Israël, Catherine, pays en guerre.
5 jours après avoir rompu le cessez-le-feu avec le Hamas, une frappe israélienne a tué hier un responsable du mouvement islamiste à l'hôpital Nasser de Khan Younes, dans le sud de Gaza. C'est ce que s'accordent à dire les quotidiens israéliens Ma'ariv, Yediot Aharonot et la chaîne qatari Al Jazeera. Israël en guerre contre les Houthis du Yémen également, qui lancent des missiles presque tous les jours contre le centre de l'État hébreu. Des roquettes aussi envoyées depuis le sud du Liban, note le journal Haaretz. Mais ce qui inquiète droite également. Le quotidien israélien de gauche, ainsi que le média israélo-palestinien Plus 972 et le New York Times, c'est la guerre lancée par Benjamin Netanyahou contre la démocratie. Le premier ministre israélien embourbé dans le Qatar Gate, une affaire où ses proches sont soupçonnés d'avoir reçu des pots de vin en provenance du Qatar, alors que le Qatar était déjà entaché de dons aux terroristes du Hamas, comme le rappelle un ancien chef d'état-major de l'armée, ainsi que le journal israélien Haaretz et la chaîne numéro 12. Benjamin Netanyahou, en pleine dérive autocratique, il écarte toutes celles et ceux qui bloquent la feuille de route de son gouvernement ou qu'il estime en partie responsable des échecs du renseignement avant les attaques terroristes du 7 octobre. C'est donc au cri de démocratie que des centaines de personnes ont manifesté hier à Jérusalem, comme le montre le quotidien Yedioth Ahronot. Inacceptable pour ces Israéliens qui ont manifesté donc hier à Jérusalem de laisser le gouvernement israélien bafouer la démocratie en votant une motion de défiance contre la procureure de l'État, Gali Baharav Miara, première étape d'une destitution inédite voulue par l'exécutif, précise Yedioth Ahronot. Cette décision intervient quelques jours après le limogeage du chef du Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, qui enquêtait justement sur le Qatar Gate. La procureure générale avait émis des réserves contre ce limogeage. Et ces révocations en série ne sont que le signe d'un conflit d'intérêts de Benjamin Netanyahou. Il porte atteinte à l'état de droit et divise Israël en temps de guerre, dénoncent ses opposants dans les colonnes du journal Haaretz. Si le journal de droite, Makor Rishon, estime lui que la procureure de l'État d'Israël avait eu une attitude conflictuelle avec le gouvernement, et ce dès son entrée en fonction, dans un édito, le Jérusalem Post estime lui qu'il s'agit d'une purge politique. Alors que l'heure, écrit-il, est à la responsabilité et non à un nouvel affrontement entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires. Le quotidien Haaretz enfonce le clou. Cette motion de censure porte atteinte à l'état de droit et affaiblit Israël.
Comme un air de déjà-vu, Catherine.
Lorsque Benjamin Netanyahou avait lancé son projet de réforme de la justice contre la Cour suprême en 2023, ce qui avait profondément divisé le pays avant les attaques terroristes du 7 octobre, rappelle le Times of Israel et le journal Haaretz, il cherchait alors à neutraliser le pouvoir judiciaire. Et il pourrait bien arriver à ses fins aujourd'hui, prévient un édito du New York Times, alors sur le plan intérieur, pour consolider son pouvoir, mais aussi à Gaza. Tsahal se prépare à ouvrir encore plus les portes de l'enfer, titre le journal israélien Ma'ariv. L'armée israélienne se prépare à occuper l'enclave palestinienne, à rétablir le régime militaire et à contrôler totalement la population palestinienne, affirme le quotidien Haaretz. Le ministre israélien de la Défense a d'ailleurs annoncé hier la création d'une administration pour le départ volontaire des habitants de Gaza vers un pays tiers, ajoute le Jérusalem Post. Un déplacement forcé et massif de la population de Gaza paraît inévitable, selon le média Plus 972. L'administration Trump cherche des pays prêts à accueillir des Gazaouis, indique le Jérusalem Post. Alors, l'Égypte n'est pas candidate, précise Alura, chaîne arabophone du gouvernement américain, et Cairo News. Pendant ce temps, plus de 50 000 Gazaouis sont morts dans l'enclave, rapporte le quotidien égyptien Al-Dustour et la BBC, mais le bilan réel est bien plus élevé, avait déjà alerté The Lancet et le Guardian. Chez les survivants, ajoute le quotidien Al-Dustour, la crise humanitaire s'aggrave, pénurie alimentaire et hausse des prix, alors que le blocus israélien se poursuit.
Au Soudan, Catherine, l'armée a repris la majeure partie du centre de Khartoum, la capitale.
La capitale soudanaise où le New York Times a pu entrer hier. Un journaliste et un photographe, premiers occidentaux, à se rendre donc dans le centre de Khartoum depuis le début de la guerre civile, il y a 2 ans. L'ampleur des dévastations est flagrante. D'importants ministères et immeubles construits grâce aux vastes réserves de pétrole et d'or du Soudan sont aujourd'hui réduits en cendres. La zone où des dizaines de milliers de jeunes soudanais avaient organisé un soulèvement populaire en 2019, qui avait renversé le président Béchir, est aujourd'hui déserte, criblée de balles. Certains de ces manifestants pro-démocratie se sont réunis hier dans le palais présidentiel pour traquer la force paramilitaire que l'armée soudanaise a autrefois nourrie, précise le New York Times, mais qui est désormais son rival pour le contrôle suprême au Soudan, faisant plonger toute la population civile avec elle.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain, nous poursuivrons notre série sur les guérillas qui déposent les armes ou qui ont déposé les armes. C'est le cas des FARC qui l'ont fait il y a 5 ans. Nous parlerons donc en Colombie du défi de la réinsertion de ces combattants des FARC. Dans un instant, les Midi de Culture.